Rebonjour à toutes et tous. Je vous propose de descendre, de venir vous installer pour que nous puissions démarrer la seconde session. Alors, le temps que tout le monde s'installe, je propose, alors si elles sont dans la salle, que nous applaudissions nos collègues ultramarines, notamment des Caraïbes. Alors, je vous propose qu'elles se lèvent et qu'on les applaudisse. Voilà. Bonjour mesdames. Alors, l'idée de cette deuxième session, c'est d'abord d'avoir une mise en perspective avec Alain Grèche de la situation et de l'état du monde aujourd'hui, avec Dorothée Schmitt en réaction, avec Stéphanie Rivoal en réaction également, et puis avec aussi Marlène Siméon de Plateforma. L'idée de cette table ronde, c'est de vous dire un peu comment a été conçue la journée de demain et la logique un peu dans les ateliers, les conférences auxquelles vous allez participer. Hein, donc voilà, c'est de vous introduire ces travaux de demain et de donner du sens et du contexte à tout ce qui va se dérouler demain. D'accord ? Donc, sans plus attendre, je passe la parole d'abord à Alain. Alors, je vais quand même présenter les personnes. Donc, Alain Grèche est l'ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique et le président du journal Orient 21. Dorothée Schmitt est chercheuse à l'IFRI. Marlène Siméon est directrice de Plateforma, donc le programme européen des collectivités engagées en coopération décentralisée. Et Stéphanie Rivoal est donc secrétaire générale du sommet Afrique-France qui se déroulera en 2020 autour des enjeux de villes et territoires durables. Et Stéphanie était au préalable, il y a encore quelques mois, ambassadrice de France en Ouganda. Donc voilà, je vais passer la parole à Alain Grèche qui va nous faire une mise en perspective. Donc Alain, pour 10-15 minutes maximum.
Bien, merci à vous pour cette invitation. Merci à vous aussi de prendre un peu de temps pour réfléchir à ces problèmes qui parfois peuvent sembler, à partir du local, très lointains, mais qui ont quand même un impact sur, je crois, sur l'activité locale. Et prendre le temps de temps en temps d'une certaine distance et de voir qu'est-ce qui se passe au niveau international me semble quand même quelque chose de tout à fait important. Alors, on m'a demandé de faire l'état du monde en crise. En 10 ou 15 minutes, c'est un défi que je pourrais pas vraiment relever. Ce qui est sûr, c'est que nous vivons dans un monde en crise. Mais les crises sont effectivement de niveaux très différents. Nous avons les crises financières, dont la dernière était en 2008, dont on n'est pas totalement remis encore et on nous annonce déjà la prochaine. Nous avons la crise des migrations. Les chiffres donnés cette année, vous les avez eus comme moi. En 2018, je veux dire, on avait 41 millions de personnes déplacées, 26 millions de réfugiés, 3,5 millions de demandeurs d'asile. Jamais depuis la Seconde Guerre mondiale, même après la Seconde Guerre mondiale, on a eu des chiffres aussi importants. On pourrait parler aussi des crises sanitaires, des épidémies qui peuvent frapper aussi bien les humains que les animaux. Et bien sûr, il y a le dérèglement climatique, qui est, je pourrais dire, la mère de toutes les crises, parce qu'elle est en train de changer l'environnement dans lequel on travaille, dans lequel chacun de nous travaille, et peut avoir des conséquences tout à fait dramatiques. La caractéristique commune, quand même, de toutes ces crises, et ce n'est pas un phénomène nouveau, mais il s'amplifie, c'est qu'elles ne sont plus locales, elles ne sont même plus régionales, elles sont pour la plupart mondiales. C'est-à-dire qu'une épidémie qui commence à un endroit, elle se répand très vite à l'ensemble de la planète. On a vu que les crises financières ne sont pas localisées non plus. Donc, il y a la mondialisation de ces crises aboutit à la nécessité d'une mondialisation des solutions. Et là, on est plutôt dans une situation paradoxale dans la mesure où on a l'impression que la capacité du système international à gérer les crises de manière globale, apparaît plus faible. Paradoxalement, au moment de la guerre froide, quand le monde était divisé en deux camps, c'était un monde bipolaire, il y avait évidemment des dangers, mais on avait l'impression que le monde était plus contrôlé. Aujourd'hui, on a un monde dit multipolaire, ce qui, d'une certaine manière, peut apparaître et pas quelque chose de positif, c'est-à-dire que des pays nouveaux commencent à entrer dans l'arène internationale, à jouer un rôle plus actif. Mais en même temps, on se rend compte qu'arriver à des consensus sur les crises devient aussi de plus en plus difficile. Donc, je concentrerai mon intervention sur les crises plus conventionnelles, ce qu'on appelle les crises géopolitiques, celles qui peuvent mettre en cause la sécurité internationale, régionale, qui peuvent aboutir à des conflits ou à des guerres. Dans une analyse prospective sur les crises qui menacent la planète, pour l'année 2019, l'International Crisis Group, qui est un think tank très respecté sur les questions internationales, définissait 10 crises majeures pour l'année 2019. Alors, on peut toujours discuter, on pourrait en rajouter. Par exemple, il ne parle pas de la Corée, qui est une crise. Mais ce qui était intéressant, c'est que ces crises, pour l'essentiel, étaient des crises, soit des crises internes, soit des conflits internes à dimension internationale, souvent des conflits qui mettaient en œuvre des milices plutôt que des États, et que les crises traditionnelles, au sens affrontement de grands États, ça s'est limité aux tensions entre la Chine et les États-Unis, tensions commerciales, mais aussi politiques, et la crise du Golfe. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est important à noter. Les autres crises, c'était l'Afghanistan, le Yémen, le Nigeria, la Syrie, le Sud-Soudan, le Venezuela, le Cameroun et l'Ukraine. C'est des crises qui mettent en œuvre des acteurs locaux. Et aussi, ce qui est caractéristique, comme je le disais, c'est des acteurs locaux, ce n'est pas les armées locales, ce sont des milices, souvent qui se partagent les pays. Ou bien on a des États faillis, comme ce qui se passe au Venezuela, mais globalement, on a des milices qui se multiplient, ce qui rend évidemment très difficile la solution des crises, d'autant que la plupart de ces crises, on peut le voir en Libye aujourd'hui ou au Yémen, implique des acteurs régionaux ou internationaux qui chacun choisissent leur camp avec l'idée qu'il faut battre, l'ennemi. Alors, je vais passer aux deux types de crises. Les crises internationales, bon, notamment entre la Chine et les États-Unis, ou la crise coréenne, ou la crise du Golfe, on est à des crises plus classiques. Et paradoxalement, les leçons des derniers jours sont intéressantes. On a vu cette crise coréenne. Si vous vous souvenez, il y a un an et demi, la crise coréenne avait, la Corée du Nord, l'acquisition de la bombe nucléaire, ils ont la bombe nucléaire, apparaissait comme quelque chose qui était vraiment dangereux, qui mettait même, Trump avait parlé de bombardement, on avait l'impression que c'est une crise qui a éclaté. Et puis, par un geste politique dont il faut dire, quoi qu'on en pense par ailleurs du président américain, qu'il a été assez spectaculaire, la crise a été dégonflée. Dégonflée, ça ne veut pas dire résolue. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, la Corée du Nord a l'arme nucléaire, qu'elle ne va pas y renoncer, et que je pense que les Américains sont en train d'accepter cette réalité. Mais en même temps, on est entré dans un autre type de discussion, qui est un type de discussion diplomatique, politique. Ça ne veut pas dire que... Enfin, il ne faut pas être naïf, il y a des rapports de force, il y a des intérêts des uns et des autres, mais je pense que cette politique de détente est quelque chose qui devrait être, en tous les cas, la manière d'essayer de résoudre la crise. L'autre exemple sur lequel je vais revenir brièvement, c'est la question iranienne, où là aussi, on est dans une contradiction, c'est-à-dire qu'on a une crise qui est née, il faut le dire, du retrait américain du traité qu'ils avaient signé, sur le contrôle du nucléaire iranien, et on est un peu dans un entre-deux entre les gens aux États-Unis qui pensent qu'il faut aller vers la guerre et les gens qui pensent qu'il faut essayer de trouver une solution. Et ça, c'est une situation extrêmement dangereuse, d'autant que les mesures de sanctions prises par les Américains contre l'Iran sont des mesures de sanctions dont il faut dire que c'est un blocus de fait du pays. Et donc, paradoxalement, un acte de guerre. Et que c'est évident que la République iranienne ne va pas se laisser étrangler, même économiquement. Donc, ça, on voit qu'il y a un certain nombre de réactions iraniennes, mais c'est effectivement, il faut essayer de sortir de là par la diplomatie et intégrer le fait que quand il y a une solution, quand on parle de solution diplomatique, on ne parle pas de solution diplomatique avec des gens qui sont entre guillemets, dont on pense qu'ils sont fréquentables. Mais je veux dire, le problème n'est pas de savoir si Kim Jong-un ou la République islamique est fréquentable, s'il viole ou non les droits humains, etc. Le problème, on est dans des relations internationales. Et là aussi, c'est important de dire que la guerre n'est pas une solution. Et de ce point de vue, je voudrais faire l'essentiel de mon intervention sur la question de la région que je connais le mieux, qui est la région, disons, qui va de l'Afghanistan au Sahel, en passant par la Libye, le Yémen, etc., qui est là où se sont accumulées toutes les crises, et c'est là où, je veux dire, se déroule ce qu'on appelle la guerre contre le terrorisme. À propos de cette guerre, je voudrais rappeler que cette guerre a été lancée par les États-Unis en 2001 à la suite de l'attaque contre New York et le Pentagone. On est aujourd'hui 18 ans après, et si vous suivez l'information, vous avez pu lire quelque part que les Américains sont en train de négocier avec les talibans. C'est-à-dire au bout de 18 ans de guerre, la guerre la plus longue de l'histoire des États-Unis, les États-Unis sont en train de constater qu'ils ont perdu. Perdu dans le sens où s'ils s'en vont demain d'Afghanistan, le régime s'effondre du jour au lendemain. Et on peut se demander, mais finalement, à quoi a servi cette guerre ? Et je voudrais là développer un peu sur la question de la guerre contre le terrorisme. À partir de là, on est entré dans un discours sur la guerre contre le terrorisme que je pense très dangereux, parce que d'abord, franchement, je ne sais pas ce que c'est le terrorisme. En tous les cas, ce n'est pas une idéologie au sens où l'était le communisme, au sens où est le fascisme, le nationalisme, etc. C'est un mode d'action qu'on peut condamner sur le plan moral, mais qu'il est très difficile de définir. À travers l'histoire, vous savez, les résistants français ont été terroristes, le Front de Libération Nationale Algérien a été terroriste, l'OLP a été terroriste, puis il y avait les Brigades Rouges italiennes. Enfin, je veux dire, c'est un concept qui est dangereux parce qu'il est tellement vague qu'il ne définit rien. Et puis, il a un autre danger, c'est de faire croire que nous menons une lutte du bien contre le mal, parce que le terrorisme, c'est vraiment le mal absolu. Donc, on est face à des gens avec qui on ne peut pas négocier, et on est aussi avec une vision des conflits qui sont dépolitisés. C'est qu'il y ait des organisations dangereuses qu'ils fassent combattre, comme l'État islamique ou Al-Qaïda, c'est évident. Mais en même temps, si on ne voit pas réellement comment se développent ces organisations, si on ne voit pas aussi localement comment ces milices qui se réclament parfois d'Al-Qaïda ou de l'État islamique se développent, comment ils recrutent des milliers de gens, non pas par idéologie, mais pour des raisons souvent bassement matérielles, comment ils ne sont pas aussi, on l'a vu en Irak, quand l'État islamique a fait son offensive en 2014, je crois, c'était essentiellement sur l'effondrement de l'État irakien. Et donc je pense que la guerre contre le terrorisme a une conséquence qui est désastreuse, c'est de faire penser qu'il y a des solutions militaires au conflit. On peut discuter, il y a certains conflits où peut-être il faut utiliser la force militaire, mais si on ne voit pas la cause essentielle des conflits, je pense qu'on va dans une guerre sans fin. Et aujourd'hui, on est, je l'ai dit, cette guerre contre le terrorisme, elle a 18 ans, et jamais on a eu autant d'organisations qualifiées de terroristes, jamais on a eu dans la zone qui va de l'Afghanistan au Sahel une telle accumulation de crises, et on le voit particulièrement au Sahel. Au Sahel, ce qui au départ était une intervention limitée de la France au Mali est devenu une intervention qui concerne tous les pays voisins, et on voit se développer dans tous ces pays voisins des groupes armés et une situation qui est incontrôlable. Et il faut le dire, non seulement il n'y a pas de solution militaire, mais souvent la guerre alimente les groupes contre lesquels on prétend combattre. Alors, je sais que ce n'est pas, y a pas de solution facile, et là, on ne va pas rentrer dans les détails, mais je voudrais terminer simplement en disant qu'il y a eu récemment un article d'une revue américaine, Atlantic, qui s'appelle quand les... Je ne retrouve pas le titre, mais... Non, si. When terrorists and criminals govern better than government. Quand les terroristes et les criminels gouvernent mieux que les États. Et ça ne touchait pas, d'ailleurs, ça ne faisait pas affaire seulement aux terroristes politiques, mais aussi aux narcotrafiquants, etc. Il montrait, par exemple, au Mexique, quand... dans un certain nombre de quartiers de Mexico, les gens étaient plutôt satisfaits d'avoir les narcos, malgré tous leurs crimes, etc., que l'État, qui était totalement un État failli. Et aujourd'hui, on voit aussi qu'en Irak, par exemple, l'incapacité de l'État irakien à répondre aux besoins d'une partie de la population, notamment des populations de sunnites, est aussi ce qui alimente les États. Donc, je terminerai là-dessus en disant que ce qui alimente aujourd'hui le terrorisme, ce n'est pas l'idéologie, ce n'est pas le fait que brusquement des millions de gens à travers le monde ont découvert une lecture radicale de l'islam, c'est ce qui se passe sur le terrain. Et je terminerai simplement en disant que c'est là aussi où ça revient à vous, c'est-à-dire que vous, en tant que collectivité locale, en tant que collectivité territoriale, vous avez un rôle très important pour justement créer les conditions de... d'un développement qui satisfait les besoins de la population et qui évite justement que les gens se retournent vers les organisations les plus radicales. Et que là, on a une possibilité d'aider à ce développement, d'aider à une stabilisation, et que d'une certaine manière, c'est à travers aussi votre action qu'on peut arriver à combattre ces idéologies radicales, qu'on peut arriver à combattre cette déstabilisation qu'on constate dans la région. Merci.
Merci beaucoup Alain pour ces propos introductifs et effectivement qui nous mettent dans le bain. Alors, avant de donner la parole à Dorothée Schmitt pour qu'elle puisse réagir, je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser des questions via votre smartphone. Donc, code RAICT en majuscule 2019, le texte et bouton vert. Donc, vous avez la possibilité de poser des questions en direct qui apparaissent ensuite sur l'écran et sur le retour que nous avons. Donc, n'hésitez pas à le faire. C'est un moyen facile et interactif et rapide de pouvoir réagir. Dorothée, quelques mots. Regardez, je vous en prie, prenez un micro. Je vous propose de réagir et de donner votre vision aux propos d'Alain.
Alors, normalement, non, c'est bon. Parfait. Merci beaucoup. Alors, on m'a suggéré de réagir à quelques propos d'Alain choisis. Donc je vais parler de deux choses peut-être qui sont d'une part l'angoisse de la mondialisation qui a été évoquée en introduction et puis la question des conflits et de la diplomatie. Je voudrais juste commencer par vous dire que je travaille dans un institut de recherche qui jusqu'à présent, enfin jusqu'à disons ces 3-4 dernières années faisait surtout de l'analyse, mais à qui on demande de plus en plus de faire de la prospective aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que non seulement on a des crises à analyser, mais on a l'impression d'être dans une logique de développement de crises permanentes, de devoir anticiper des crises et on a une sorte de peur généralisée. Qui, à mon avis, fait partie de cette sorte d'angoisse diffuse de la mondialisation dont a parlé Alain, et qui est une angoisse très paradoxale, puisque finalement, aujourd'hui, on est de plus en plus informé, on est simplement en train de prendre conscience des interactions et du fait qu'on est au milieu de liens qui ont été créés historiquement, sur lesquels on n'a pas forcément de prise à l'échelle individuelle. Et ce décalage entre l'hyperconscience et l'effet de peur, de sidération que ça provoque et l'absence de solution est tout à fait angoissant. À mon avis, cette obsession des risques, elle vient, bon, elle peut, enfin, c'est pas mon avis uniquement, hein, bien sûr, je vais essayer de serrer un certain nombre de raisons pour lesquelles tout le monde partage aujourd'hui cette peur. Je pense que du point de vue géopolitique, on est dans une période où la hiérarchie des puissances est très fondamentalement remise en cause. Nous sommes tous français, on a toujours cette question sur le statut de la France, sa place dans les relations internationales. Est-ce qu'on est une puissance intermédiaire? Est-ce qu'on a quelque chose à dire? Et aujourd'hui, ça se résout dans le débat sur l'Europe. Est-ce qu'il faut rester en Europe? Est-ce qu'il faut dire à l'Europe ce qu'elle doit faire? Est-ce que la France doit être l'avant-garde de l'Europe? Ou est-ce qu'il faut sortir de l'Europe? C'est quand même absolument extraordinaire d'imaginer qu'en 2 ans à peine, l'idée de la sortie de l'Europe est devenue quelque chose de discuté, normal. Donc cette tectonique des plaques des puissances qui aujourd'hui fait monter la Chine très très rapidement dans cette espèce de tête-à-tête avec les États-Unis qui peut sembler complètement délirant parce que Donald Trump est en train de remettre en cause toutes les règles de la courtoisie diplomatique au minimum, elle fait aussi descendre de ce fait les États-Unis en réalité en termes de puissance, ne serait-ce que parce que cet irrationnel complet n'est pas un gage de puissance à moyen terme. Deuxième aspect, on a des inquiétudes à long terme dont on n'est plus conscient aujourd'hui, qui sont au moins, évidemment, la question du climat, avec tout ce que ça emporte sur la désertification, la sociologie des pays émergents, les migrations. Et en face de ça, les technologies et la technologie folle et la question qu'on a de pouvoir contrôler un certain nombre d'évolutions qui nous peuvent nous sembler déshumanisantes ou amener vers le pire. Et face à tout ça, le politique n'est plus du tout à la hauteur et au contraire fonctionne sur un mode complètement régressif avec la montée des populismes, avec un aspect d'ultra-personnalisation, de clientélisme, de court terme qui n'amène plus du tout à pouvoir élaborer des solutions collectives face à tous ces défis dont on a dit qu'ils sont complètement collectifs. Maintenant, je viens à un petit point rapide sur les conflits, puisque Alain en a beaucoup parlé en évoquant notamment le fait que nous sommes dans une période où de plus en plus de conflits impliquent des acteurs non étatiques, donc ça accentue encore cette impression d'absence de maîtrise complète. On ne sait plus gérer les conflits, mais les règles même de la guerre qu'on avait mis tout le XXe siècle à élaborer sont complètement remises en cause. De ce point de vue, la crise syrienne est vraiment une sorte de catastrophe philosophique absolue, parce qu'on a toute la barbarie la plus invraisemblable qui à nouveau s'exprime. Et évidemment, la question des armes chimiques a été un déclencheur de cette très grande peur philosophique de est-ce qu'on peut encore régler les conflits ? Est-ce qu'on n'a jamais pu les régler d'ailleurs ? Parce que finalement, ce qui est inquiétant, c'est que sur un fond de course aux armements généralisés, aujourd'hui, on peut se demander s'il n'y a pas un désir de guerre, tout simplement, qui se répand. Et c'est une chose qui me frappe beaucoup quand je parle avec des interlocuteurs qui ne font pas de l'analyse politique comme je suis censée en faire toute la journée. Ah ben maintenant, il nous faudrait une bonne guerre pour remettre tout ça à plat, et notamment au Moyen-Orient, comme s'il y avait encore un endroit épargné par la guerre au Moyen-Orient. Ça, c'est quand même tout à fait paradoxal. Et en réfléchissant à ça, je me suis dit que ce qui était assez effrayant, c'est que dans un moment de perte de repère du récit national, de notre identité, qui sommes-nous, et bien finalement, quand on réécrit les récits nationaux, très fréquemment, les guerres sont les points saillants et les moments d'articulation du récit national. Et c'est comme s'il y avait inconsciemment une espèce d'envie, effectivement, de tout remettre à jour qui ne pouvait passer que par une sorte de catastrophe. Bon, face à tout ça, évidemment, il faut profiter au contraire de notre accès à l'information, de notre intelligence, de notre éducation, pour continuer à réfléchir collectivement. Et ça, c'est une chose qui est extrêmement importante, évidemment, prendre le temps, ne pas s'autoriser à penser l'avenir du monde, c'est-à-dire que là, l'exercice qu'on fait peut sembler incroyablement prétentieux, mais en réalité, je pense que si chacun, je ne dis pas chaque jour en se rasant, se demandait quel va être l'avenir du monde, mais si chacun faisait un peu l'effort de réfléchir aux dangers et aux solutions collectives, c'est déjà une manière de faire descendre l'angoisse tout à fait importante. Je pense qu'on passe par des stades où on en prend plein la figure, on ne sait pas très bien par où en sortir, mais au bout d'un moment, quand on est déjà capable de comprendre la situation, c'est déjà mieux. Il y a un petit point très important qu'a noté Alain, qui est le retour du local dans l'idée du règlement des crises. Alors ça aussi, au Moyen-Orient, c'est très important. Aujourd'hui, on est vraiment dans le retour systématique à la gouvernance locale comme étant la clé de sortie de crise. Le problème, c'est que ça risque d'être tout simplement le résultat d'une réflexion sur la fin des États ou sur la dégradation complète du modèle étatique. Donc je vous encourage quand même à réfléchir à l'idée que des institutions étatiques fortes sont absolument indispensables pour arriver à structurer les relations internationales et pour que même vous arriviez à faire le travail de coopération décentralisée, de diplomatie des collectivités locales qui est le vôtre. Et encore une fois, jouer collectif, je pense que c'est tout à fait ce qui se passe ici. Vous êtes dans ces rencontres où on a un nombre absolument extraordinaire d'acteurs qui sont impliqués dans des coopérations. Et il est très important d'échanger sur un mode dépassionné. Et évidemment, la diplomatie, comme le disait Alain, ne consiste pas à parler uniquement à des amis, mais d'aller à la rencontre également des gens qui sont très différents de nous et avec qui on n'est pas du tout d'accord. Et c'est aussi ça qui fait, d'une certaine manière, le sel de la vie, et pas seulement de la vie de l'analyste, j'imagine.
Merci infiniment à tous les deux. Alors, il est hors de question de résumer vos propos, mais ce que j'entends, c'est que qu'il s'agisse de guerre contre le terrorisme, qu'il s'agisse de l'angoisse de la mondialisation, de l'obsession des risques, des conflits. Important de comprendre, de décrypter pour pouvoir agir, pour pouvoir en tout cas analyser des situations. Importance du retour de l'État et des collectivités sur les territoires et importance du jeu collectif, ce qui nous renvoie à, à la discussion de la table ronde précédente où, et à l'ouverture de ces rencontres où on insistait sur le « ensemble », comprendre, décrypter et agir ensemble. Merci à tous les deux. Stéphanie, donc on va lancer aussi le travail, enfin l'explication un peu de l'organisation des sessions, mais peut-être Stéphanie, une réaction aux propos d'Alain Grèche et de Dorothée Schmitt.
Bonjour à tous, merci de me donner la parole. Alors, je ne suis pas chercheuse, je ne suis pas brillant journaliste, mais je vais réagir tout de même en tant que diplomate, sachant que, pour information à la salle, je ne suis diplomate ni de carrière, ni de caractère. Donc vous allez sans doute pouvoir apprécier la nouvelle diplomatie que j'essaie de porter. Cette nouvelle diplomatie, parce que j'entends beaucoup de choses d'État à État, pour moi, le métier diplomate aujourd'hui, c'est un métier à au moins 3 étages. Bien sûr, la diplomatie, je dirais, historique, État à État. Alors, on est là pour être les messagers, les ambassadeurs, bien évidemment, mais de porter un dialogue d'État à État. Maintenant, il y a 2 nouvelles frontières qui sont très nettes pour moi dans cette diplomatie qui ouvre des brèches. C'est la diplomatie d'entreprise, la diplomatie économique. Alors, ça a été largement porté par Laurent Fabius, c'était fait un peu avant, mais il y a encore un champ très large à travailler, à labourer sur le monde de l'entreprise. Alors, souvent, diplomatie économique a voulu dire on embarque les sociétés françaises. Ça va beaucoup plus loin de ça, c'est comprendre le monde économique. Parce que pour un petit peu rebondir, quand des territoires, des villes, des gens ont un travail épanouissant dans une ville vivable, ils ont peut-être moins envie de se tourner vers des solutions radicales ou des guerres. Donc il y a aussi ce travail de fond à faire. Et la troisième frontière, c'est la société civile. Et ça, pour un diplomate, ça veut dire aller au contact des gens, un peu comme les métiers de maire et les collectivités territoriales. Et au final, la France à l'étranger, c'est aussi être au contact des sociétés civiles. Ça veut dire pas seulement nos ONG à nous, internationales, on les connaît, on les finance, mais beaucoup plus finement le tissu des gens pour comprendre les territoires. Et c'est là qu'on l'identifiera, et je vous rejoins complètement, c'est vraiment au niveau des gens que ça va se situer. C'est comprendre leurs besoins, les écouter, les jeunes, les femmes, la jeunesse. Alors moi, je vais vous parler d'Afrique dans 2 secondes, mais c'est vraiment d'être à ce niveau-là. Et le diplomate, avec ses équipes, il doit descendre dans cette arène-là. Aller dans les territoires, les villages, les lieux, les villes de réunion et parler aux gens. Et là, on aura une meilleure compréhension qu'on fera remonter vers les gouvernements. Le multilatéralisme est un grand débat, mais il faut descendre ces 3 étages de la fusée. Un petit point sur le digital, effectivement, société déshumanisée, on va en parler sans doute lors du sommet, mais le digital peut être aussi une vaste source d'opportunités. Je vais porter ma petite touche de positif là-dessus, c'est que l'Afrique, pour le coup, montre le chemin sur comment le digital peut changer nos vies positivement et être des outils d'épanouissement personnel. Alors, on parle beaucoup de Chine, US, l'Europe. Je n'ai pas encore entendu dans vos discours le mot Afrique au sens global. J'ai entendu Nigeria, Cameroun, Sud-Soudan. Donc, encore l'Afrique des problèmes, l'Afrique des crises. Mais vraiment, ce sommet qu'on prépare avec les gens du monde économique, avec des gens qui sont ici du MEDEF international, avec les collectivités, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est vraiment de dire que l'Afrique est aussi, et peut-être même surtout, un terrain d'opportunité. Et si je regarde Emmanuel Macron qui présente la France dans Choose France devant un parterre d'investisseurs étrangers, est-ce qu'il commence par énumérer le nombre d'attentats terroristes qui se sont passés sur le territoire français ? Non, il parle des atouts de la France et à quel point c'est intéressant pour les investisseurs de venir. L'Afrique doit être vue aussi de cette manière-là. Et si on la voit comme ça, on se met peut-être dans une spirale un peu plus vertueuse. Le développement économique des territoires africains amènera des solutions à la désespérance des gens qui sont dans des zones souvent reculées et qui ensuite sont des proies pour les terroristes et notamment qui vendent une idéologie mais qui surtout se nourrissent d'un territoire, d'un terrain de pauvreté, de désespérance et de manque d'opportunités. Donc ce sommet qu'on va préparer tous ensemble sera aussi un terrain de solution plus de manière plus diffuse, contre-réponse, un contre-narratif aux terroristes ou aux négativistes de l'Afrique, pour en toile de fond trouver des solutions aux problèmes des gens à la fin du fin. Est-ce que Geneviève, on transitionne ?
Absolument.
On y va. Hop là. Alors, ce sommet Afrique-France, il part d'un constat très simple, c'est que l'Afrique, et ce ne sera pas le seul endroit au monde à avoir cette tendance, va s'urbaniser massivement. Alors les villes, et là je fais appel aux chercheurs, mais dans l'histoire c'était les lieux de croissance, d'évolution, mais là les villes commencent à devenir aussi des terreaux de problèmes, notamment avec les bidonvilles et l'urbanisation non organisée. 1 milliard d'individus sur le continent africain qui sera en ville en 2040, vous voyez un peu ce que ça donne dans des grandes mégapoles comme le Caire, comme Kinshasa. Donc il y a des grandes métropoles qui vont pousser, mais elles ne sont pas prêtes aujourd'hui à accueillir ces mouvements. 2 phénomènes, bien sûr, la démographie des villes elles-mêmes, les gens font des enfants dans les villes, et les zones rurales. C'est pour ça que lors des villes et territoires durables, qui est le sommet que le président de la République a bien voulu donner à ce, le titre, pardon, à ce sommet, sera vraiment de dire quels sont les facteurs de fixation dans les territoires, notamment des jeunes, qui font qu'on peut endiguer peut-être cet exode rural qui peut être source de problèmes. Les petites villes sont souvent les oubliées de cette urbanisation et donc du développement. Et c'est comme par hasard en périphérie, notamment du Nigeria, du Niger également, que, ou du Congo, on n'en a pas parlé, mais c'est bien dans les Kivu que les terroristes peuvent avoir des opportunités de capter des habitants et de les mettre dans des situations impossibles. Donc ces petites villes ne doivent pas être les oubliées de l'urbanisation au sens bénéfique du terme et doivent rester attractives malgré la pauvreté qui est souvent liée à leur taille. C'est beaucoup plus cher de faire une route qui connecte 2 villages en termes de rentabilité de l'investissement que 2 grandes villes. Des enjeux humains majeurs. Souvent, on parle de la démographie de l'Afrique en disant, voilà, c'est vraiment un problème. Quand on parle aux Africains, eux, ils parlent de leur capital humain et du dividende démographique. Donc vraiment, il y a 2 manières de voir la démographie. Quand elle est contrôlée, maîtrisée, moi, quand je parlais au président Museveni en Ouganda, je pouvais discuter de ce sujet qui est pourtant très sensible. Qui sommes-nous pour dire aux Africains de ne pas avoir d'enfants ? Bien sûr, ce n'est pas du tout quelque chose qu'on peut énoncer dans ce sens. Mais en revanche, ils comprennent très bien que la qualité du capital humain, c'est-à-dire un capital humain qui est éduqué et en bonne santé et bien nourri, donc nutrition, santé, éducation, sera la force de leur pays. Et qu'à l'inverse, un capital humain qui n'a pas été bien soigné, bien nourri, ne sera pas productif du point de vue du chef de l'État. C'est une chose qui se parle et qui peut s'évoquer. Alors, la ville durable et les territoires durables, on a envie de parler des réductions des facteurs des zones, des villes secondaires. Et c'est pour ça, et là, je veux saluer très chaleureusement l'implication de la ville de Bordeaux. Et merci beaucoup, monsieur le maire, Nicolas Florian, d'être présent ici. Merci de votre soutien, sans faille depuis le début. Alain Juppé avait, au départ, soutenu le projet. C'est sans aucune hésitation que vous avez accepté, continué d'être à nos côtés. Vous êtes un partenaire exceptionnel. Je ne peux pas mentionner Bordeaux sans parler de Pierre de Gaëtan, qui est mon alter ego, mon frère à Bordeaux. Et nous allons monter ce sommet avec l'implication des diasporas africaines de tout le territoire français et bien sûr les communes. Et les communes, comme Bordeaux, parce que les villes secondaires, elles sont dites secondaires. C'est pas très, excusez-moi, hein, monsieur le maire, de parler de Bordeaux comme ça. Une ville qui n'est pas la capitale, mais comme c'est un peu long, on lui trouve une autre appellation. Mais l'idée, c'est vraiment de parler des territoires, des autres villes, Bordeaux devient une des villes les plus attractives de France. Donc c'est dire qu'on a bien choisi la ville qui peut parler des écoquartiers, des rénovations des berges et des ouvrages qui l'amènent à plus de durabilité. On va prendre le train. Je vais essayer de mettre tous les chefs d'État dans le train de Paris à Bordeaux pour montrer que c'est 2 heures et une poignée de minutes pour atteindre la ville bordelaise, la région bordelaise et la ville de Bordeaux. Parce que c'est une bonne technologie aussi, elle n'est pas forcément adaptée au territoire africain du fait de son prix, mais c'est bien de connecter les villes entre elles, ça permet aux citadins d'être heureux dans leur ville, tout en sachant qu'à 2 heures de là, ils peuvent atteindre la capitale. Les problèmes du foncier, de gouvernance, d'architecture, les bidonvilles, c'est un thème très cher, notamment à Gérard Vogue, que je salue aussi, du MEDEF. Et donc, on va parler aussi de ces enjeux-là. Ce sommet, on le veut inclusif. Alors, inclusif, c'est un nouveau mot, participatif peut-être, en tous les cas, le tous ensemble est vraiment le maître mot, ce qui veut dire qu'on va le faire véritablement. Il n'y aura pas des événements à côté pour les femmes, à côté pour les jeunes, à côté pour les entreprises qu'on met entre eux, ils sont toujours tous d'accord et viennent ensuite redonner leurs conclusions. Non, là, on va débattre tous ensemble. Donc, ce sommet a deux parties, dont une partie, une journée entière, qui est la Cité des solutions. On veut que ce soit avec une forte présence africaine. Bon, d'ores et déjà, j'en appelle à vous pour être présents les 4, 5 et 6 juin à Bordeaux en 2020, mais surtout, en plus de votre présence, contactez vos homologues africains avec lesquels vous avez des contacts de coopération décentralisée, des amitiés de longue date via les jumelages, et dites-leur de venir également. Car c'est vraiment en étant tous ensemble, notamment au niveau des collectivités territoriales, des maires, des régions, des métropoles, qu'on pourra trouver des solutions. C'est le bon moyen d'entrer dans le sujet de la ville durable. On le disait, le politique est peut-être en perte de vitesse. Il faut prendre le haut, le bas du chef de l'État aux citoyens, aux citadins, pour trouver les solutions. Le Salon des solutions, une journée entière, tout le monde va montrer ce qu'il a fait. Donc j'en appelle au maire pour non seulement être identifié, venir, parler des projets qui ont marché dans vos communes, dans vos régions, qu'elles soient en France ou en Afrique. Vous avez eu un sujet de déchets, un sujet de voisinage, d'insécurité, effectivement d'un quartier aux mains des trafiquants de drogue parfois, un sujet de jeunes, un sujet de mobilité, un sujet d'éclairage, n'importe quoi, de sécurité. C'est le moment de venir partager votre projet avec les autres, car on pense qu'il n'y a pas que les sujets innovants, il y a les solutions frappées au coin du bon sens qui demandent à être dupliquées entre sachants, entre personnes qui portent les problèmes des citoyens, et ce sont bien vous, messieurs et mesdames les maires. Les quartiers thématiques, il y en aura beaucoup, on pense à l'eau, l'électricité, bien sûr, les déchets, le logement, la mobilité, mais on veut parler aussi de nourrir les villes, d'agriculture urbaine, du digital, bien sûr, d'embellir la ville, l'art urbain, mais aussi, et ça va parler, je pense, aux personnes des collectivités que vous êtes, c'est l'accès à la santé, l'éducation, au sport et à la culture. La ville durable, c'est pas seulement avoir de l'eau, l'électricité, c'est avoir accès à tout. Et les jeunes aujourd'hui, non seulement en Afrique, en France aussi, ils veulent tout. Ils veulent tout et maintenant. Ils veulent un emploi, ils veulent les accès à tout ça, sinon ils bougent. Et quand ils bougent, ils vont vers une grande ville. Et quand la grande ville est un lieu de désespérance, plusieurs choix, la délinquance, des idéologies radicales, ou alors ils bougent et ils arrivent en Europe. Et là, c'est une source de problème, de déstabilisation politique dont on n'a pas fini de voir les conséquences. Ce salon des solutions sera le vôtre, celui des savoir-faire, mais bien sûr, il nous faut aussi les financements. Sans argent, aucun de ces projets ne marche. Mais on ne peut pas commencer par là. On ne veut pas avoir des maires et des collectivités qui disent « moi, j'ai besoin d'argent ». Non, j'ai un besoin, j'ai des priorités et on va trouver des solutions. Et si elle est bonne, pertinente et même avec des bénéfices économiques, les financements viendront à la fin et en appui au projet que vous allez nous présenter ou appuyer avec les liens que vous avez avec les collectivités africaines. Donc vous êtes des bases solides, vous êtes quelque chose d'assez extraordinaire en termes d'ancienneté de vos relations avec les territoires africains, entre la France et l'Afrique. On se connaît depuis tellement de temps. Bien sûr, il y a l'histoire de la colonisation qui fait partie de nos liens, mais qu'on a su, notamment dans la région bordelaise, transformer en des atouts majeurs. La diaspora contribue économiquement, humainement, culturellement à notre identité nationale avec force et positivité. Donc c'est vraiment grâce à ça qu'on va pouvoir avoir un sommet qui sera, je l'espère, un succès. On a des points de faiblesse, il faut qu'on se le dise. Il n'y a pas beaucoup de coordination entre les coopérations décentralisées et les actions de développement des ONG ou même de l'AFD. Moi, je vois des projets qui sont sur les mêmes territoires, sur les mêmes sujets et qui ne sont pas faits ensemble. Il y a quelque chose où on n'est pas franchement bon en France, c'est bien la transversalité. On est un peu dans le silo. Donc là, ce sera le moment aussi d'en parler et de trouver des solutions. On a donc besoin que vous mobilisiez, que vous vous projetiez, que vous veniez présenter vos projets et on va tenter ensemble de trouver des solutions aux problèmes de financement trop complexes, de morcellement de vos actions qui ne sont pas forcément concentrées ni en thème ni en territoire. Donc ce sera le moment d'en discuter. Donc j'en appelle à vous tous, puisqu'on veut ce sommet inclusif et participatif. Bordeaux, 4, 5 et 6 juin 2020. Ce sera débattu dans vos travaux de demain sur les différents volets. Il faut qu'à la fin du fin, on en sorte avec du concret. Après ce salon, il y aura la partie officielle du sommet qui sera faite de partage de projets, écouter des voix et avoir des engagements. Donc j'espère qu'il sera utile, concret, et j'espère surtout que vous serez présents avec nous en juin 2020 à Bordeaux chez Monsieur le maire.
Alors, je vais enchaîner sans transition. Merci Stéphanie pour cette présentation extrêmement complète de l'idée et de ce que sera ce sommet. Je vais vous passer sans transition sur effectivement cette session 1, donc autour du sommet Afrique-France de 2020 sur les villes durables. Quelle mobilisation des collectivités ? Je rebondis sur le fait de besoin de transversalité, de construire ensemble des solutions. Et les conférences et ateliers qui vont vous être proposés demain sont dans cette idée de construire ensemble. Donc les collectivités, on l'a vu, se sont progressivement invitées à la table des discussions. Elles revendiquent le fait de porter elles-mêmes des solutions pour contribuer au développement de territoires durables en Afrique. Et alors, je n'y reviens pas, mais le choix d'une entrée territoire plutôt qu'une entrée uniquement ville, pour rappeler que les territoires sont des écosystèmes complexes qui allient l'urbain et le rural et sur des enjeux extrêmement divers. Les collectivités échangent, discutent avec leurs homologues africains, notamment dans le cadre de coopération. Et vous allez pouvoir échanger demain et discuter avec l'ensemble de ces acteurs dans le cadre de quatre conférences et deux ateliers. Une conférence sur quelles solutions les collectivités portent-elles en matière d'innovation énergétique et climatique en Afrique, avec notamment Climate Chance. Une conférence sur la place de l'économie sociale et solidaire en Afrique et dans les projets de coopération pour des territoires durables, avec notamment le RTES, le réseau territoires économie sociale et solidaire. Une conférence sur la question de la citoyenneté et de l'innovation sociale en Afrique, place des collectivités, quelle place ces collectivités donnent-elles aux femmes et aux jeunes, avec notamment le programme français Ville et Territoire et la Fédération des agences d'urbanisme, et puis une conférence sur les entreprises qui ont elles aussi des solutions, Stéphanie vient de le présenter, pour construire des territoires durables en Afrique. Échangeons donc avec la Task Force Ville Durable de MEDEF International. Et puis deux ateliers, un atelier autour de GESER, qui sera un atelier très concret autour d'un programme européen qui s'est déroulé, quatre collectivités françaises, quatre collectivités algériennes, sur la construction commune de politique publique jeunesse. Donc venez voir les conclusions, la capitalisation de ce programme et comment aller plus loin sur la construction commune de politique jeunesse. Et puis un atelier en lien avec également la Fédération des agences d'urbanisme et l'association de logement et francophonie sur le logement abordable et les quartiers informels en Afrique. Quel rôle, quelle solution pour les collectivités afin que chacun ait un toit. Donc voilà, première mise en bouche, mise en appétit autour de cette session vers le sommet Afrique-France de 2020. Donc ensuite, vous retrouverez dans vos programmes les lieux, les salles et dans lesquelles vous pourrez assister à ces diverses sessions. Voilà pour la première session. Je vous propose que l'on passe sans transition à la deuxième session. Donc, si on peut mettre le diaporama. Alors, Alain Grèche a fait un panorama. La deuxième session va porter sur territoire en crise, réhabilitation, résilience. Là aussi, place, rôle des collectivités aux côtés des grands acteurs de l'humanitaire et quelle stratégie de réponse pour les questions face aux crises. Donc, Alain vous a fait un panorama de la situation. Dorothée a largement compléter et aborder certains points. Donc, je ne reviendrai pas sur le paysage global. Ce que je voulais peut-être vous dire, c'est partir de ce que nous faisons aujourd'hui avec les collectivités sur cette question de l'urgence. C'est depuis près de 20 ans, toute une série de fonds de solidarité d'urgence qui sont créés à la demande des collectivités lorsque surgit une crise. Vous avez une cartographie cartographie qui vous montre les principaux lieux dans le monde où ces fonds de solidarité ont été créés. Ces fonds de solidarité ont fait l'objet d'une évaluation. Une évaluation qui a montré effectivement leur pertinence, mais aussi la nécessité d'aller plus loin. Voilà, vous avez, alors je ne sais, c'est peut-être plus lisible effectivement sur grand écran, vous avez un rappel des années, des fonds de solidarité qui ont été, sur lesquels les collectivités ont contribué et le montant des sommes collectées et des projets réalisés. Là aussi, voilà, donc une diaporama qui vous montre le contexte de déploiement des fonds. Alors, Alain l'avait évoqué aussi, hein, plusieurs types de crises, des conflits armés, des catastrophes naturelles ou des crises alimentaires. Et c'est autour de ces différents types de crises que vous, collectivités, avez répondu dans le cadre de ce fonds de solidarité. Alors, je suis allée trop vite. Voilà, un petit film très court qui va vous montrer ce qui a été fait, par exemple, dans le cadre du Fonds de solidarité Népal.
I am Fanny Salé, coming from France.
Je m'appelle Hassan Mani et je suis adjoint au maire dans une ville qui est à côté de Paris qui s'appelle Nanterre.
Your children are the future of your community. The best way you educate your children, the best they will do for the future to know
C'est très intéressant, c'est magnifique. Je pense qu'il y a eu un réel échange et que le travail de CUF n'a pas été en vain.
Échange très intéressant avec une explication du fonctionnement de cette ressource, ce bâtiment de ressources communautaires qui nous a permis nous aussi de mieux comprendre le projet et d'entendre les habitants sur les activités qu'ils souhaitent y mener et surtout sur les programmes.
Des centaines, on les identifie, on les diagnostique pour savoir si elles sont fragiles, si elles sont tombées ou pas. Et à partir de là, on a mis au point un protocole de, à la fois pour dire le diagnostic structurel.
Support, like host the whole floor properly. So even during the earthquake, so they will have like more time.
On est sur le site du HRC, qui est le Habitat Resource Center, c'est le centre qui va permettre de déployer la culture constructive qui améliore les conditions de sécurité par rapport aux risques.
C'est pas économe en coup de marque.
Et grâce au soutien apporté par une centaine de collectivités, dont on voit ici les noms, 114 collectivités locales françaises ont contribué à ce centre assez unique, original, de démonstration des bonnes techniques de construction pour limiter les risques d'effondrement de maisons en cas de tremblement de terre. C'est un projet vraiment innovant.
Magnifique.
Voilà, donc une petite illustration de ce que produisent ces fonds de solidarité avec l'appui des collectivités. Et donc, ce fonds de solidarité Népal était donc après le tremblement de terre et a permis de reconstruire effectivement des bâtiments communautaires et d'avoir tout un aspect formation des élus à la construction antisismique, mais aussi à tout un travail autour de la décentralisation. Pour poursuivre la discussion, donc Cités Unies France, c'est aussi, on l'a vu tout à l'heure, Cités et gouvernements locaux unis, avec un travail mené au sein de CGLU aussi sur la question de la résilience et du cadre de Sendai. Cadre de Sendai, qui est un cadre international sur les crises et dont pour lequel on travaille sur la localisation. Un certain nombre de brochures, de documents ont été édités. Voilà, vous avez les brochures qui ont été publiées sur effectivement des situations de crise que vous pouvez trouver à l'accueil et avec toute une série de travaux, de plateformes, de participation à des plateformes mondiales autour des crises urbaines. Alors, je crois qu'il y a un deuxième petit film rapide sur le travail de ces GLU.
In 2017, 96 million people were affected by 381 disasters that were recorded globally. Half of them occurred in the Asia-Pacific region. Not all people are affected in the same way. Poor residents are most likely to be impacted negatively. Owing to their density and growing populations, urban areas and their residents are particularly vulnerable to flooding, earthquakes, droughts, conflict, epidemics, and other shocks. Disasters impact the economic well-being of the city by increasing expenses for rebuilding, causing disruptions and losses in businesses, basic services, and infrastructure, and adversely impacting the attractiveness of the city for investors. The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction is the main global framework that sets out targets and goals until 2030 to prevent and reduce the losses from disasters. Target E of the framework, which aims to substantially increase the number of countries with national and local disaster risk reduction strategies by 2020, highlights in particular the role of local actors in achieving these goals. Local leaders are at the forefront of disaster management and risk reduction. The Making Cities Resilient campaign alone has already gathered commitments from over 4,000 cities to address their risk agendas locally and contribute to the achievement of the Sendai framework. But we need to scale up and increase our efforts to address key bottlenecks to local action. Many local governments have developed innovative strategies to prevent and manage risks, and we have to share their lessons. Every global agenda must root beyond national governments, and local authorities must be empowered to contribute to the achievement of the Sendai framework. Sendai is a city, and all cities are Sendai. We stand together to localize disaster risk reduction and resilience. Tell us your story.
Merci. Alors, effectivement, ce dernier film insiste beaucoup sur l'importance de la reconnaissance des collectivités comme acteurs majeurs en situation de crise, de post-crise, de reconstruction, de résilience, et comment, effectivement, mieux les associer et mieux les mettre au cœur des préoccupations. On l'a vu, et Alain Grèche et Dorothée sont revenus sur cette question, la sortie de crise passe aussi par la décentralisation, qui doit être organisée, programmée, accompagnée, et c'est l'un des plus grands défis des collectivités territoriales qui sont au cœur de cette dynamique. Alors, là aussi, donc des conférences, des ateliers qui vous permettront de décliner ces différents points et de pouvoir échanger avec des partenaires internationaux. Une conférence autour des enjeux en République centrafricaine, comment poser les enjeux de la décentralisation et de la ville durable. On est vraiment au cœur des questionnements. Une deuxième conférence sur la question de la reconstruction en Irak. Quels sont les enjeux, là aussi, de la décentralisation. Une conférence avec la Global Alliance pour les crises urbaines, sur les défis pour les collectivités face aux crises urbaines. Sachant que sur la conférence République centrafricaine, le maire de Bangui sera présent. La conférence sur la reconstruction en Irak se fait en lien avec le centre de crise et de soutien du ministère des Affaires étrangères. Donc la conférence sur l'Alliance globale pour les crises urbaines avec l'Alliance globale. Et puis un atelier en lien avec, donc, qui sera animé par Plateforma, sur la question des crises et des conflits dans les pays partenaires, dans les pays de coopération des collectivités. Quelle réaction des collectivités européenne, le cas en particulier de l'Ukraine et du Nicaragua qui nous permettront de voir comment les coopérations décentralisées se positionnent et réagissent face à des pays en situation de crise. Voilà pour la deuxième session. Donc là aussi, vous trouverez dans votre programme les lieux des conférences et des ateliers où vous pourrez retrouver ces discussions. Je vous propose qu'on passe sans délai à la session 3. Je vais peut-être donner la zapette à Marlène, puisqu'on va le faire en duo et on commentera ensemble. Alors, donc la session 3, peut-être revenir sur la diapo d'avant, c'est le bouton rouge. Donc, voilà, qui va porter sur les nouveaux contextes législatifs en France et en Europe et du coup, ça s'attarder aux attentes, aux besoins et outils pour les collectivités territoriales. Alors, effectivement, un contexte... passer sur un contexte législatif en France qui évolue avec une action internationale des collectivités multiformes, fonction des compétences et des ressources des collectivités. Des collectivités confrontées à de multiples évolutions, notamment liées aux lois de décentralisation en France, aux lois de finances, et qui évoluent dans des cadres contraints et qui connaissent de fortes réductions budgétaires.
Voilà. Bonjour et merci beaucoup de nous avoir invités, bien entendu. Donc, les collectivités territoriales se sont donc regroupées face à tous ces défis dans des réseaux nationaux, européens et globaux, qui sont des sources d'information, de plaidoyer aussi auprès des gouvernements nationaux, des institutions européennes, des Nations Unies, mais aussi des réseaux d'échange de pratiques et d'expériences et d'inspiration. Donc, qu'est-ce que Plateforma ? Donc, c'était posé un petit peu dans la session précédente, dans la table ronde précédente. Plateforma, c'est une coalition de gouvernements locaux et régionaux européens et leurs associations au niveau national, comme Cités Unies France, au niveau européen, comme le Conseil des communes et régions d'Europe, et au niveau global, comme CGLU. Et donc, tous ces acteurs sont engagés dans la coopération décentralisée. En 2015, Plateforma a signé un accord cadre de partenariat avec la Commission européenne, qui est notamment la DG DEFCO, la Direction générale de la coopération internationale et du développement. Et nos signataires s'engagent à prendre des mesures fondées sur des valeurs et des objectifs communs pour lutter contre la pauvreté, les inégalités dans le monde, tout en favorisant la démocratie locale et le développement durable. Donc, je vais vous parler du contexte européen. Ah non, d'abord, on revient au contexte.
Oui, alors, on revient au contexte de français. Donc, les collectivités bénéficient de réelles possibilités de cofinancement de la part des institutions françaises, mais se heurtent à deux obstacles. D'abord, la difficulté à pouvoir intégrer dépenses et recettes externes liées à l'international dans leur budget de fonctionnement. Je ne reviendrai pas sur le débat qui a eu lieu ce matin en CNCD et qui a été évoqué dans les discours d'ouverture. Et puis aussi la faiblesse de l'ingénierie dédiée aux actions internationales comparée à ce qui peut se faire dans d'autres pays européens.
Donc effectivement, le contexte européen est assez mouvant en ce moment. On a donc un changement législatif de période législative. Donc on va passer de la période 2014-2020 à 2021-2027. Donc au niveau européen, on a le Conseil qui va changer de président. Les négociations sont en cours. Le Conseil, donc, qui représente les États membres, devra aussi déterminer sa position collective en termes de coopération au développement. Quelle sera la prochaine politique d'action extérieure de l'Union européenne. On a eu les élections au Parlement européen qui ont montré 8 groupes politiques qui se sont formés avec un recul des partis traditionnels, donc que sont le PPE, Parti populaire européen à droite, et le Parti socialiste démocrate à gauche, et une montée en puissance des libéraux centristes avec Renew Europe, donc Renouveler l'Europe, dont la moitié des sièges est allée à des députés français. On a observé aussi une vague verte qui vient des pays du nord-ouest de l'Europe, d'Autriche, Finlande, France, Allemagne, Irlande, et qui va remettre les enjeux climatiques et environnementaux au cœur des prochaines négociations, donc peut-être un petit peu moins sécuritaire, plus climatique, écologique. Voilà, on va voir un petit peu l'évolution de la politique européenne de développement. Et bon, à déplorer une montée des partis nationalistes et d'extrême droite, bien entendu. Nous pouvons aussi noter que 60% des députés seront nouveaux au Parlement européen, donc beaucoup d'actions aussi pour faire connaître l'action des collectivités territoriales. C'est un travail qu'on va à nouveau devoir porter auprès du Parlement qui va être qui va être assez intense à partir de la rentrée. Et 37% des députés européens sont des femmes, voilà, comme dans la législature précédente, sauf que quand le Royaume-Uni va réellement sortir, le nombre de députés femmes diminuera à nouveau. Voilà. Voilà. Et puis le troisième acteur, donc, c'est la Commission européenne qui propose la législation et qui va changer de visage à l'automne puisque les commissaires vont changer. Voilà. Donc les négociations pour la prochaine période vont être assez intéressantes à suivre. Nous, c'est notre rôle aussi de faire du plaidoyer auprès des institutions européennes pour faire remonter la voix des territoires, remonter l'action des collectivités territoriales en matière de coopération, mais aussi pour traduire les politiques au niveau des territoires et comment mieux engager les collectivités dans l'action européenne. Donc jusqu'à présent, le rôle des collectivités territoriales dans la coopération au développement était reconnu par la Commission européenne à travers sa communication en 2013 spécifiquement sur l'autonomie accrue aux autorités locales dans les pays partenaires pour une meilleure gouvernance. Et dans un deuxième document qui est le cadre, le consensus européen pour le développement de 2017, où la Commission européenne et les institutions européennes reconnaissent le rôle clé des collectivités territoriales dans la mise en œuvre des ODD. Voilà, donc jusqu'à présent, les collectivités avaient leur propre programme budgétaire, leur propre ligne budgétaire aussi pour être soutenues dans leur coopération décentralisée. Ah voilà, ce qui va changer quand même dans la prochaine période de programmation. C'est-à-dire qu'elles seront davantage reconnues dans leur rôle politique, stratégique, on va dire, dans les programmes géographiques qui sont négociés entre l'Union européenne et les pays partenaires au niveau national. Donc là, elles sont censées être plus consultées sur leurs priorités. Elles seront associées à différentes politiques telles que l'éducation, la migration, la santé, le climat, l'urbanisation, l'environnement ou l'égalité femmes-hommes. Mais les modalités d'engagement sont encore à définir puisque la ligne budgétaire disparaît. Donc il y aura un soutien pour l'éducation au développement, pour la sensibilisation aux citoyens, pour l'échange de pratiques et d'expertise dans des réseaux, mais la coopération décentralisée ou l'appui directement aux collectivités territoriales dans les pays partenaires sera beaucoup plus compliqué et dépendra donc de la volonté des gouvernements nationaux dans les pays partenaires. Il y aura effectivement une forte concurrence des ONG qui sont plus habituées à travailler peut-être dans les pays partenaires avec les délégations de l'Union européenne aussi, et puis effectivement une concurrence des autres collectivités territoriales européennes qui ont une ingénierie aussi très forte. Voilà, donc pour nous, l'important c'est de vous mobiliser, c'est de parler avec les délégations de l'Union européenne quand vous êtes dans un pays partenaire, les partenaires aussi, aller directement voir les délégations, leur présenter ce que vous faites et l'importance d'inclure les collectivités territoriales dans leur travail au quotidien.
Merci Marlène. Donc je complète comme pour les autres sessions avec les ateliers et les conférences qui vont permettre de décliner, d'identifier des pistes, les innovations, les solutions pour faire mieux, faire autrement et faire ensemble. Donc une conférence et quatre ateliers, une conférence dans des contextes budgétaires contraints, comment mobiliser les dispositifs 1% au service des projets, hein, en lien, en co-animation avec le programme Solidarité Eau sur la question eau, assainissement, déchets et électricité, énergie avec Cycle et Électriciens sans frontières. Un atelier sur la question du positionnement des collectivités françaises, des collectivités territoriales françaises par rapport à la présence à l'international des collectivités d'autres pays. En gros, quel atout, quels avantages les collectivités françaises ont-elles quand on se retrouve sur des territoires étrangers entre plusieurs collectivités européennes. Et donc un atelier en lien avec le CIEDEL, un atelier sur la question des approches concertées qui peuvent booster l'innovation territoriale. Hein, comment, en allant ensemble, l'expression chasser en meute n'est pas très belle, mais c'est ça, comment aller entre start-up, université, collectivité pour vendre le territoire, travailler sur le marketing territorial. Et c'est un atelier qui sera animé par la ville de Tours avec les partenaires start-up et université. Un atelier sur la question de la sécurité des espaces publics, un exemple de cartographie des politiques publiques incluant une approche genre et notamment une réflexion autour de la place de la femme dans la ville et dans l'espace territorial. Donc un atelier en lien avec Métropolis et puis un atelier en lien avec la Task Force MEDEF International, la Task Force Ville Durable, sur la question des partenariats publics-privés à l'étranger. Est-ce que c'est la panacée? Est-ce que voilà, c'est un modèle qui a fait long feu? Est-ce qu'il y a d'autres modèles? En tout cas, un atelier sur l'analyse des causes de réussite et d'échec de ces partenariats publics-privés. Voilà, donc là aussi, vous retrouverez dans vos programmes les salles, les amphis, etc., qui vous permettront de suivre ces conférences, ces ateliers. Voilà, nous espérons, en tout cas, on espère que vous allez pouvoir à la fois vous régaler, poser des questions, apprendre des choses, échanger, rencontrer, et que ces journées seront à la fois pour vous passionnantes et enrichissantes. Merci d'avance de votre participation et ne partez pas, en tout cas, je vais vous inviter à quitter cette salle pour rejoindre l'espace où nous, avec Rachel Kahn, la marraine de ce temps de mise en valeur des femmes, nous allons mettre à l'honneur quatre femmes élues dans le monde. Et c'était vraiment un souhait que ces rencontres, ces dixièmes rencontres, soient aussi l'occasion de mettre à l'honneur des femmes. Et je ne sais pas si vous l'avez noté, mais jusqu'à présent, dans tous les panels, les femmes sont largement majoritaires. Donc bravo à elles.